Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui n'avez pas suivi pendant la semaine les principaux faits d'actualité, nous sommes là pour en discuter avec quatre confrères. Simon Kabamba, directeur à la radio RPGA, émettant à Kinshasa. Mathieu Mpoukoudi, éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure de Matadio Bakongo. Il intervient au téléphone depuis cette ville. Fidèle Moussangou du quotidien Le Phare, publié ici à Kinshasa. Et Francis Wabout, chef du service économie de Radio Liberté au Congo Brazza. Il intervient aussi au téléphone depuis Brazzaville-Laverge. Trois thèmes seront abordés ce soir. La grève des fonctionnaires à travers le pays, la proposition de révision constitutionnelle pour inclure le chef de l'État et le ministre de la Justice comme membres du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, la rencontre depuis mercredi à Nairobi au Kenya de 11 pays, des grands lacs sur la sécurité dans la région. Ce vendredi, les délégués congolais et rwandais se réunissent pour discuter de la situation sécuritaire à l'est du pays. Commençons cette tribune de la presse par le dossier grève des fonctionnaires. Un peu partout dans le pays, au début de cette semaine, les agents de l'administration publique menaçaient d'aller en grève. En Bandaka, dans l'Équateur, le mouvement de grève avait même déjà commencé mardi matin. À Kinshasa, les fonctionnaires de l'État se sont réunis lundi dernier pour amener le gouvernement à rendre effective l'uniformisation du salaire de base à travers tout le pays. C'est ce qu'explique Kibiso Naopes, coordonnateur national de l'intersyndicat de la fonction publique.
Dès que le gouvernement lancera des signaux positifs à leurs revendications, c'est-à-dire barème unique, province et Kinshasa, et tous les secteurs de la vie nationale, eh bien, nous allons les inviter encore pour arrêter la grève. Pour le moment, le gouvernement dit qu'il n'a pas assez de crédit, donc les 6 milliards qu'il faut ajouter sur les 35 milliards à payer chaque mois, pour que le barème intermédiaire soit d'exécution. Mais nous disons, le minimum qu'il faut faire, c'est que le barème qui est payé à Kinshasa soit également payé aux gens des provinces. Mais écoutez, nous négocions dans le bureau, mais sur le terrain, la pression doit s'intensifier.
Justement, de son côté, le ministre de la fonction publique reconnaissait la légitimité de ces revendications des fonctionnaires, mais en même temps, Zifirin Mutu Diambo évoquait l'incapacité du gouvernement, comme vient de le dire Kibiso Nampé, à résoudre actuellement ce problème. Aussi, le numéro 1 de la fonction publique a invité l'intersyndicat de la fonction publique à privilégier le dialogue, seule voie d'après lui pour décompter cette situation. On l'écoute au micro de notre consoeur, Mimi Ngumba Mulongo.
Si le gouvernement avait les moyens voulus, il agirait directement. Mais si nous dialoguons, c'est parce que nous n'avons pas les moyens voulus. Alors nous sommes en train d'expliquer que ce n'est pas la mauvaise foi du gouvernement, mais c'est le manque de moyens pour répondre à toutes ces revendications. Puisqu'au niveau du budget, il est difficile d'avoir un supplément de 7 ou 6 milliards par rapport aux 35 milliards déjà consentis. Nous sommes en train d'épuiser les sources pour avoir des recettes. En attendant, il n'y a pas de grève parce que le mot d'ordre de l'intersyndicale, c'était de continuer le dialogue. Si les agents et fonctionnaires de l'État vont en grève, ça va certainement aggraver la situation. Nous voulons résoudre les problèmes. En même temps, ceux qui doivent résoudre les problèmes ne s'y impliquent pas. Que les agents et fonctionnaires de l'État viennent voir le fond de la marmite. Parce que les besoins du gouvernement, ce n'est pas seulement les salaires. Et donc, on ne peut pas prendre tous les budgets de l'État le mettre dans le salaire.
Fidèle Moussangou, vous êtes, je le rappelle, le journaliste au sein du quotidien Le Phare qui est publié ici à Kinshasa. Comment vous réagissez par rapport à ce mot d'ordre de grève? Mais apparemment, cette grève n'est pas suivie dans tout le pays, comme nous l'ont dit certains de nos correspondants. Par exemple, à Kikwit, au Bandundu et en Ituri, dans la province orientale, la grève n'a pas été suivie.
Je suis d'abord peiné de vivre encore ce calvaire qu'on impose aux fonctionnaires de l'État, à tous ceux qui marchent au budget de l'État. Que la grève n'ait pas lieu, mais la fonction publique n'existe plus. Si de temps en temps vous passez devant le bâtiment ici en face de la Banque centrale, mais c'est vide à l'intérieur. Les gens ne travaillent plus depuis des années parce qu'ils ne sont pas payés. parce qu'ils sont martyrisés, parce qu'ils sont torturés. Il s'agit d'un
pays qui est en train de se payer, mais peut-être pas
de. Non, le problème n'est pas là. Je crois qu'au lieu de nous rabattre les oreilles avec ces fameux cinq chantiers de chef de l'État, voici le chantier principal. C'est là. Il fallait concentrer tous les moyens financiers à la révalorisation de la fonction publique.
Mais pour aussi mettre, il faut aussi mettre de l'argent dans
le Mais laissez, écoutez, on nous dit qu'on a produit un milliard de dollars. Mais regardez les dépenses politiques. Regardez les dépenses de guerre, entre guillemets. Voilà ce qui se passe à l'Est. On a mobilisé des fonds, on a mobilisé des ressources humaines et même des ressources intellectuelles pour soi-disant aller attaquer Kunda, le général Kunda. On ne l'a même pas attaqué, mais c'est des fonds qui sont sortis du réseau public. Ça pouvait aider à payer les fonctionnaires. Pourquoi aller mobiliser beaucoup de millions de dollars pour ne rien faire?
Mais ce sont des particuliers. Ça ne permet pas d'entretenir quand même les
fonds. Non, non, je vous dis que voilà le principal chantier du chef de l'État. Cette histoire de construire des routes, des autres routes, c'est la vaste blague. On ne construit jamais ça. C'est là qu'il fallait concentrer les efforts de l'État. Dans d'autres pays, prenons un pays, petit pays pauvre comme le Rwanda. Ils ont un budget de 400 millions de dollars, 250 millions de dollars qu'ils produisent, et 150 millions de dollars qu'ils reçoivent comme assistance. Et les 250 millions de dollars sont consacrés uniquement au fonctionnement de l'appareil de l'État. Ça veut dire payer les salaires. Et ils sont payés à temps. Et les fonctionnaires vivent avec leur salaire. Il n'y a pas l'informé à Kigali, non. Quelqu'un va au bureau le matin, il rentre le soir. Alors, il a son bol de haricots, des bisamounou, et il vit, mais chez nous. L'État n'existe plus. L'État n'existe que de nom. C'est au parler du peuple. Écoutez, pourquoi accepter, de payer un député 4500 dollars? De lui payer même une Jeep, comme on l'a fait ici à l'époque de 3 plus 1. Cet argent aurait servi à faire autre chose. C'est de l'argent qu'on sort.
Mais ils ont dit que c'était leur cotisation, hein.
Il faut réduire les salaires, là. Commencer par le chef de l'État, réduire les salaires, les ministres, les députés.
Comme c'est là, c'était au Sénégal.
Au Sénégal, par tout le monde. Même, ça, c'est là, c'est une question de solidarité nationale. Vous comprenez? Alors, la grève, là, il n'y a pas de grève parce qu'il n'y a pas de fonction publique. Il n'y a pas d'enseignement.
Merci beaucoup. Nous avons également dans ce studio Simon Kamamba. Je rappelle que vous êtes directeur à la radio RTGA, Radio-Télévision Groupe L'Avenir, émettant ici à Kinshasa. Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui de Fidèle Musango?
Merci beaucoup, Claude, pour l'intérêt que vous manifestez en nous invitant pour parler de sujets aussi vitaux que la grève de fonctionnaires. Vous allez me permettre d'avoir un autre son de cloche. Oui. Je ne partage pas exactement son avis, parce que là, je vais avoir tout à fait une autre approche. Je me dis,
allez-y.
La grève fait partie des droits fondamentaux de chaque citoyen. Donc, si les agents et fonctionnaires de l'État estiment que l'État n'arrive pas à leur donner un salaire correct, c'est tout à fait légitime, c'est leur droit d'aller en grève. Mais je suis quand même content parce que, si vous avez remarqué depuis quelques mois, il y a des négociations. Cela signifie que les deux parties sont sur le point de trouver un compromis. Ils ont proposé, ils ont parlé du barème d'Imboudi, ils ont parlé aujourd'hui du barème harmonisé, ils sont sur le point de trouver des solutions qui arrivent à donner satisfaction, ne fût-ce qu'à toutes les deux parties dans un premier temps.
Comment expliquer que au début de la rentrée scolaire, les enseignants étaient en grève, ils ont repris l'école et maintenant ils reprennent encore la grève? Est-ce qu'ils ne s'étaient pas bien entendus avec le gouvernement?
Oui, et c'est là qu'il y a effectivement un problème. Au regard de l'étendue de notre pays, la communication pose problème. Donc, ça signifie que là où, par exemple, la prise en charge des parents a été intégrée dans les systèmes éducatifs, il y en a qui trouvent que ce système les met à l'aise et qu'ils peuvent s'accommoder à ce système. Donc ça va être difficile que tu demandes à ces gens qui s'étaient déjà accommodés à un certain mode de vie de supprimer la prise en charge des parents pour un salaire de l'État qui n'est pas sur la même vitesse que ce qu'ils étaient en train de recevoir, ce qu'ils avaient comme revenu. Donc, c'est peut-être ça qui justifie une certaine hésitation. Mais moi, je me dis, le jour où les deux parties vont trouver un compromis et que l'État va donner un salaire, c'est vrai qu'il ne va pas donner le plus grand salaire du monde, mais un salaire qui arrive quand même, un temps soit peu, à donner satisfaction aux fonctionnaires de l'État et même aux enseignants, je crois qu'on aura franchi les premiers pas en attendant que l'État C'est vrai, le confrère l'a dit ici, ça fait longtemps que l'État n'existe plus dans notre pays. L'État est en train de renaître. Et avec toutes les difficultés qu'on lui reconnaît aujourd'hui, il faut dire que même s'il a toute la volonté du monde, il aura du mal à payer un salaire correct.
Merci beaucoup. Allons justement directement au Bas-Congo où intervient au téléphone Mathieu Mpoukoudi. Je rappelle que vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, qui est publié à Matadi. Et j'ai ici devant moi le journal Le Phare de ce vendredi 9 novembre 2007. Et à la première page, je lis fonction publique, la territoriale paralysée par une grève de 7 jours. Comment vous réagissez? Est-ce qu'à Matadi, le mot d'ordre de grève a été respecté?
Oui, merci, M. Cote, pour l'opportunité que vous m'offrez en vue de donner mon point de vue par rapport aux grands problèmes de l'heure dans notre pays. Je dirais d'abord que, justement, à Matadi, le personnel de l'administration publique a débrayé depuis ce vendredi, et que au niveau de Goma, c'est depuis mardi 6 novembre que le mot d'ordre a été, la grève qui a été déclenchée. Mais bon, c'est une grève tout à fait timide parce que les gens ont suivi le mot d'ordre de l'intersyndicale. Les autres, par contre, rôdent tout autour de bureaux pour voir s'il y a lieu de rentrer, il y a lieu de continuer. Voilà un peu la situation générale de la grève au niveau de Matadi et de Goma particulièrement.
Et comment vous réagissez par rapport à cette grève?
Oui, en fait, moi je dirais que la fonction publique, comme vous la connaissez très bien, est dans une situation de léthargie depuis la deuxième République. C'est maintenant que les choses semblent s'organiser. C'est vrai, tout gouvernement, que ce soit le plus bon du monde, ne pourrait pas faire mieux, ne pourrait pas faire de miracles, parce qu'en fait, vous savez, nous sortons d'une situation confuse. 32 ans durant, nous avons dansé. Tout naturellement que nous serions rattrapés par toutes les années de danse et de folklore. Oui, et donc, c'est vraiment un moment de refondation de l'État et qu'il faut du temps pour que cela marche normalement.
Nous partons maintenant à Brazzaville, d'où intervient Francis Wabout. Vous êtes chef du service économie de Radio Liberté au Congo, Brazzaville. Francis Wabout, comment ça se passe à Brazzaville avec les fonctionnaires de l'État? Est-ce que de temps en temps, ils vont aussi en grève, comme ici en RDC?
Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux de les voir. Une fois de plus, participer à cette émission, qui est un grand forum, et qui effectivement me permet d'échanger avec les différents confrères qui sont là-bas. Bon, pour aller droit au but, je dirais que le premier confrère, celui de l'hebdomadaire Le Phare, qui est intervenu, n'était pas aussi dérangeant que ça. C'est-à-dire les trois confrères ont chacun leur raison et qui sont sur le terrain et qui vivent au quotidien les difficultés des fonctionnaires. Mais chez nous, comment ça s'est passé? Pour le prendre directement. C'est-à-dire, le problème que vous vivez là-bas, témoigne de toute la difficulté des pays africains au sortir des conflits à gérer le quotidien des travailleurs. Parce que moi, je me dis, pour un pays comme le vôtre, comme le nôtre d'ailleurs, de façon générale, qui sortent des conflits, il y a trois priorités. La première, c'est peut-être la sauvegarde de la paix, le renforcement de la sécurité et de la paix. La deuxième, c'est peut-être la relance économique. Mais la troisième priorité devait être, à mon humble avis, l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. C'est pour ça que chez nous, ici à Brazzaville, au sortir des différents conflits que nous avons connus, il y a eu un modus vivendi entre le gouvernement et les différentes centrales syndicales qui représentent les travailleurs. Et ces différents conclaves ont abouti à ce qu'on a appelé ici la trêve sociale, qui était elle-même, qui s'appuyait elle-même sur un protocole d'accord a sorti de 21 points. C'est-à-dire que chaque fois, le gouvernement devait améliorer les conditions des travailleurs en tenant compte en même temps des recettes, du niveau des recettes, de l'amélioration des conditions économiques du pays. Et ça, les syndicats ont pris la responsabilité sur eux d'expliquer aux travailleurs que le pays sort d'un conflit. Nous avons signé une trêve pour 3 ans, qui s'étale sur 3 ans avec le gouvernement. Donc en fait, les deux parties se regardaient comme ça, selon un calendrier bien défini, et chaque fois ils se retrouvaient pour faire l'évaluation des avancées qu'ils pouvaient constater le long du parcours.
Est-ce que vous pouvez peut-être prodiguer comme conseil à nos fonctionnaires ici d'accorder peut-être une trêve au gouvernement congolais du fait que on est un pays post-conflit?
Oui, justement, moi je pensais que le gouvernement du Zenga, à peine installé, devait bénéficier d'abord de ce qu'on appelle l'état de grâce. Après cet état de grâce, le gouvernement devait asseoir toutes les conditions et réunir les partenaires, ce sont les syndicats, afin de discuter avec eux, de regarder ensemble les potentialités économiques du pays, de regarder ensemble quelles sont les recettes et dans quelle mesure faire face aux cahiers de charges que pouvaient leur présenter les différents syndicats. Et donc, c'est aux syndicalistes de descendre vers les travailleurs pour leur expliquer que nous sommes en harmonie avec le gouvernement. Le gouvernement accepte de souscrire à vos revendications, mais on peut le faire par étape, étape après étape. Cela permettra un peu de souplesse, un peu d'équilibre, sans trop bouleverser la donne sociale dans le pays.
Merci Francis Waboute. Je rappelle que vous êtes chef du service économie à la radio Liberté au Congo-Brazzaville. Vous intervenez au téléphone depuis Brazzaville-Laverte. Passons à notre second thème du jour. Une proposition pour revoir la Constitution a été déposée en début de semaine à l'Assemblée nationale. Elle est soutenue par plus de 300 députés nationaux et vise deux articles principalement. Il s'agit en particulier de l'article concernant la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Selon la Constitution, seuls les magistrats siègent à cet organe de la justice. L'initiateur de la proposition de retouche, le professeur Chibangu Kalala, estime que le chef de l'État, le ministre de la Justice et la société civile doivent également en faire partie. Le professeur Chibangu Kalala, au micro de notre confrère Georges Kamoujoba.
Nous voulons faire en sorte que cet organe fonctionne de manière démocratique. Nous proposons que les représentants élus par le peuple qui ont la charge de gérer le pays dans sa totalité puissent se retrouver dans cet organe dont il faut qu'il y ait le gouvernement, le ministre de la Justice, le président de la République qui est le magistrat suprême. Il faut qu'il y ait les fonctionnaires de l'État, donc les magistrats qui rendent la justice au quotidien. Et en plus de cela, il faut qu'il y ait la société civile, des professeurs d'université, des avocats, des médecins, des architectes, des journalistes, parce que la société civile constitue les consommateurs de ce service public important qui est la justice. En France, aujourd'hui, vous avez le ministre de la Justice, vous avez le président de la République, vous avez la société civile qui est au sein du Conseil supérieur de magistrature. Les pouvoirs doivent collaborer. La justice, dans notre pays, donne l'image d'une justice corrompue, pourrie. Il faut agir très vite et c'est de la responsabilité des élus du peuple que nous sommes. Pas demain, c'est aujourd'hui et tout de suite.
Concernant l'opportunité de cette révision de la Constitution 20 mois après sa promulgation, quelques parlementaires restent toutefois sceptiques. Georges Kamoujoba a aussi contacté le sénateur MLC Jacques Poujoli. Pour ce dernier, le constituant a déjà consacré la séparation des pouvoirs. Il estime par ailleurs que le Conseil supérieur de la magistrature, n'étant pas encore organisé, il ne devrait pas être victime du comportement des juges en fonction. Le sénateur MLC Jacques Poujoli, au micro, une fois de plus, de Georges Kamoujoba.
Il faudrait que l'initiateur de cette révision ait le courage de dire que son problème, c'est de faire entrer le chef de l'État ou le ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature. Vouloir noyer le poisson avec l'eau pour amener la société civile, eh bien, je crois que c'est une tentative de déséquilibrer le pouvoir tel qu'est conçu. C'est vrai, on peut avoir des inquiétudes, mais voyons, on n'a même pas encore mis en place cette cour constitutionnelle. Et nous sommes en train déjà de préjuger. Ce n'est pas scientifiquement correct. On peut donner tous les arguments qu'on veut. Aller en Belgique pour parler du Conseil supérieur de la justice. Aller en Italie pour chercher des arguments. Mais est-ce que nous sommes dans le contexte congolais où nous avons voulu instaurer notre pouvoir judiciaire indépendant en laissant nos magistrats eux-mêmes dans le Conseil supérieur de la magistrature?
Revenons dans ce studio, Fidèle Moussango, je rappelle que vous êtes du quotidien Le Phare, qui est publié ici à Kinshasa. Comment votre journal a traité justement cette actualité qui pose quand même problème?
Il s'agit d'abord d'une violation flagrante de la Constitution. La Constitution est basée sur le principe de la séparation des trois pouvoirs. Vous ne pouvez pas être du pouvoir exécutif et puis vous voulez du pouvoir judiciaire. Le président de la République, le ministre de la Justice sont du pouvoir exécutif. Ils n'ont rien à voir dans le pouvoir judiciaire. Et attention, je continue, confrère. Parce que c'est ce genre de dérapage qui a conduit à ce qu'on vit maintenant avec le système où le parquet a pilmoté sur le juge. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez affaire, vous êtes attrait devant la justice, le juge vous acquitte. Tant que le parquet ne vous a pas blanchi, vous restez en prison. Ça, c'est le système que Mobutu avait instauré pour avoir la main sur la justice. Et il utilisait le parquet
voyez ça, c'est un dérapage que, sur le, dans le, vers lequel Maître Tshibangu nous conduit. Lui qui est juriste et avocat. Et je le mets en garde parce qu'il raconte des histoires. Deuxième élément. Le président de la République, il a pas que, il a beaucoup, il a un grand dossier. Le dossier de l'unité. Le dossier de la défense de l'intégrité. Voilà son dossier. Il n'est pas coupé du soir. Alors, pourquoi ne pas en faire le ministre des Finances? Parce qu'il y a des corruptions là-bas.
Mais,
ou bien le mettre à l'OFIDA. Je continue, moi, parce que c'est grave. Il dit quelque part qu'il faut la société civile. Bon, il va aller jusqu'au bout de la logique. Pourquoi ne pas faire venir l'association des ramasseurs de balles dans les terrains d'interdit? La société civile, elle est vaste. Pourquoi les maraîchères? Alors, dans une question technique, écoutez, qu'est-ce qui se passe au Conseil supérieur de la magistrature? C'est là où on prend les sanctions positives ou négatives contre le magistrat. Et c'est purement technique. C'est comme chez nous, le journaliste. Le journaliste n'accepte que la sanction lui imposée par ses pairs. Et le magistrat ne peut accepter que la sanction lui infligée par ses pairs. Comme ce soit les avocats, les médecins, les pharmaciens, les architectes. Parce que là, il y a un dérapage. D'autre part, sur le plan même, j'y vais tout doucement, parce que sur le plan même non fonctionnel, non seulement on va violer les principes fondamentaux qui fondent la démocratie universelle, en voulant maintenant impliquer le pouvoir exécutif dans le judiciaire, et avec comme but que le président ait un œil sur la nomination des magistrats ou leur révocation. Et dans un pays où nous sommes encore, où nous avons quoi, une cote tribalistique, nous allons voir les dérapages. Bon, deuxième élément. Si Kabila intervient,
s'il vous plaît,
excusez-moi,
je vais donner la parole aux autres.
Je termine, papa. Il y a ceci. Vous savez, je l'ai dit en rigolant, mais c'est très sérieux. Ici, chaque fois, on accuse les gens de vouloir privilégier leur tribu. Imaginez, le président Kabila est un homme politique. S'il nomme un magistrat compétent, mais si seulement ce magistrat a une coloration du PPRD, on dira, il a nommé quelqu'un de son parti. Comme ça, on ne va pas examiner la compétence. Alors c'est pour ça qu'on dit, c'est une affaire des magistrats eux-mêmes. Le président intervient quand? À l'ouverture, protocolairement, et à la clôture, et puis, quand il doit nommer, il nomme sur avis du Conseil sur la magistrature. Donc les magistrats entre eux, qui connaissent les us et coutumes, qui connaissent la déontologie, qui connaissent l'éthique, ils savent comment faire. Parce que si on y met le président,
merci beaucoup.
Est-ce que le président sait comment
l'éthique est? Merci beaucoup, fidèle Simon Kabamba. Est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de politisation de cet organe, justement, judiciaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature? J'ai ici devant moi l'article 152 de la Constitution qui donne les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Il dit que ce conseil élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne également ses avis en matière de recours en grâce. Apparemment, les magistrats eux-mêmes ne semblent pas vraiment porter à cœur cette révision de la Constitution.
Merci une fois de plus, Claude, pour cette question. Malheureusement, je ne veux pas partager le point de vue de mon confrère.
Vous êtes libre.
Oui, voilà. La première raison, c'est que d'abord, je suis inquiet du fait que la Constitution vient d'être élaborée tout de suite. Il faut la changer. Là, ça ne fait pas quand même sérieux parce qu'ils avaient eu tout le temps de prendre en compte toutes les dimensions avant de soumettre cette Constitution au référendum.
Mais certains politiciens avaient dit qu'on pouvait, il fallait voter cette Constitution, mais quitte à la modifier plus tard.
Ah, voilà, c'est les ravis. Et quant à ce qui concerne l'incorporation du chef de l'État et du ministre de Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature, je ne sais pas, à mon avis, pourquoi il y a inquiétude. On n'a pas dit, tout à l'heure, là, quand vous étiez en train d'expliquer, on n'a pas dit que le chef de l'État va venir là-dedans faire le travail des juges.
Mais qu'est-ce qu'il va venir faire,
remplacer?
Qu'est-ce qu'il vient d'appeler?
Le chef de l'État va constituer un contrepoids. Vous vous rappelez ce qu'il y a eu,
c'est-à-dire?
Vous vous rappelez tout récemment, Claude, ce qu'il y a eu lorsque notre justice devait trancher le cas des députés qui étaient en litige. Il y a eu à boire et à manger. Vous connaissez ce qu'il y a eu là-dedans. Alors, se servant de cet exemple, les honorables députés se sont dit, si nous continuons à laisser la même chose se reproduire, un jour, nous serons dans une situation qu'on ne pourra plus jamais récupérer parce que cette justice, au-dessus de toute chose, pourra prendre des décisions que l'État pourra un jour regretter. Donc,
On se dit le chef de l'État constitue un garde-fou à ses pouvoirs illimités.
Est-ce qu'on lui, on risque pas de lui donner également des pouvoirs trop forts et de devenir finalement un homme fort, décrié,
Mais pourquoi vous avez la même constitution qui reconnaît au chef de l'État le pouvoir de dissoudre les parlements? Et là, on ne dit pas que c'est trop fort. Mais ce n'est pas chaque jour qu'il va se lever comme ça par des instants et dit « Aujourd'hui, j'ai dissous le Parlement ». Non, mais au moins c'est un garde. On sait que le président peut à tout moment, en cas de dérapage, prendre cette décision. Et ça fait du bien. Pourquoi on évoque le
Parlement?
Oui, voilà. Nous ne sommes pas les premiers à avoir un État moderne. Nous devons nous servir de ce qui se fait ailleurs.
Mais il y a aussi un contexte congolais.
Nous ne sommes pas dans un contexte particulier qui nous demande des lois particulières. Pas du tout.
Merci beaucoup, Simon Kabamba. Mathieu Mpoukoudi, comment vous faites la lecture de ce problème? Est-ce que certains disent ici qu'on risque de faire du chef de l'État un dictateur? Comment vous percevez cela, Matadi?
Bon, merci. Je voudrais d'abord dire que c'est un problème, c'est un débat purement technique. Vous voyez, le chef de l'État ou le président de la République ne sera pas le seul à décider au cours du Conseil supérieur de la magistrature, mais ce sera un travail qui sera mené par des professionnels de droit, des techniciens de droit. Moi, je crois que c'est pas vraiment un surpouvoir dans le cas où le chef de l'État, par les contextes qui est le nôtre, a des pouvoirs assez limités. Et la Constitution est claire. D'abord, la Constitution lui reconnaît étant magistrat suprême. Il doit avoir un droit de regard, pouvoir réellement si le Conseil supérieur de la magistrature, plutôt, fait son travail.
Est-ce que quand la Constitution lui reconnaît le droit d'être magistrat suprême, c'est-à-dire qu'il exerce aussi comme magistrat?
Oh non, loin de là. Donc c'est-à-dire qu'il est le dernier rempart, le symbole même de la nation. Donc voilà un peu pour dire que c'est un faux débat, il ne faut pas que les autres s'agitent, autrement il serait aussi de la même manière pour le Parlement, comme l'a dit les confrères, qui a dit effectivement il a le droit de dissoudre le Parlement. Là, on n'a pas crié la dictature, c'est seulement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qu'on a crié la dictature. Non, c'est clair, le chef de l'État en tant que magistrat doit avoir un droit de regard.
Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre une certaine, magistrat craigne une certaine politisation de la justice?
Non, loin de là, parce qu'en fait, c'est un organe technique qui aura siégé, qui aura décidé sur les sanctions qui sont infligées aux magistrats. Donc, il n'appartiendra pas au chef de l'État, lui seul en tant qu'individu, de décider en lieu et place du Conseil supérieur. Le contexte a changé. Moi, je crois que nous devons tenir aussi compte de l'évolution de la situation politique.
Merci beaucoup, Mathieu Mpoukoudi. Francis Wabout, vous intervenez depuis Brazzaville. C'est un problème ici d'un débat sur l'indépendance de la justice. Quelle lecture vous faites à partir de Brazzaville de ce débat?
Merci bien, mon cher Claude. Après l'intervention de mes trois conseils qui sont là-bas à Kinshasa, j'ai pu me dire que j'ai pu jouer le rôle de synthèse, pour que j'ai suivi les uns les autres. Mais moi, je pense que c'est pas vraiment la Constitution qui peut faire le chef d'État qu'il soit dictateur. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. Je me dis que la Constitution peut prévoir de très belles choses, mais on a vu le chef d'État qui ne se sont pas empêchés de violer cette Constitution.
Mais en Afrique, on a aussi vu, Francis Wabout, en Afrique, on a aussi vu des constitutions taillées sur mesure.
Ouais, justement, il y a eu des constitutions taillées sur mesure, mais moi, je pense que qu'on le veuille ou pas, le constitutionnaliste, quand j'essaie de parcourir la plupart des constitutions, même chez nous ici, c'est à l'article 79 qu'il est prévu que le chef de l'État, le président de la République, est le magistrat suprême, comme l'un des confrères vient de le dire là-bas. Il est même le chef suprême des armées. Mais est-ce que c'est parce qu'on dit, par exemple, que le chef de l'État est le chef suprême des armées, que comme ça, un bon matin, le président se met à mettre des chars dans les rues pour faire n'importe quoi, pour asseoir son autorité, bien pour exprimer son autorité? Je pense que non. Ici, dans ce contexte ici, c'est parce que on se dit qu'il y a un comité, il y a ce conseil supérieur de la magistrature va statuer sur la carrière des magistrats et sert d'organe de discipline et de gestion des magistrats. Mais le chef de l'État, le président de la République, est peut-être la voix prépondérante, c'est-à-dire lorsqu'il y a des délibérations, quand il y a blocus, quand il y a blocage, le président de la République peut faire valoir sa voix, pour faire passer une mesure ou bien pour essayer de mettre un peu d'ordre lorsque les magistrats entre eux, qui siègent au sein de ce conseil, sont en porte-à-faux entre eux. Le président vient quand pour donner son avis, mais il donne l'avis en tenant compte des différents arguments qui lui ont été soumis.
Mais la plupart des magistrats, beaucoup de magistrats ici n'en veulent pas. Ils veulent pas de l'intrusion des politiques dans les affaires qui concernent la justice, parce que on a une histoire dans ce pays, il y a eu parfois l'immixtion des politiques dans la justice. Et la Constitution, pour ceux qui l'ont peut-être élaboré, voulait qu'il y ait séparation entre les différents pouvoirs.
Ouais, justement, moi je me dis que chaque pays a la loi qu'il veut, a la constitution qu'il lui va par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, à son histoire, et justement on essaie de tenir compte d'un certain nombre de dérapages connus dans le passé, pour que à la longue on les évite. Mais en même temps je dis que une constitution n'est jamais immuable, c'est-à-dire elle n'est pas fixe, elle n'est pas éternelle. On peut essayer d'expérimenter la chose telle qu'elle a été conçue dès le départ, telle qu'elle a été adoptée par le peuple, et quitte à voir 3-4 ans plus tard, si jamais la façon dont on avait vu les choses constitue plutôt un frein à l'épanouissement de la démocratie. Donc je me dis, c'est là où je voulais plutôt dire entre temps que ce député qui a pensé à revoir à la révision de la Constitution sous cet angle-là, est-ce qu'il ne va pas un peu trop vite dans sa démarche, vu qu'il y a à peine 20 mois, la Constitution de la RDC venait d'être adoptée, vu qu'elle n'a pas encore fini d'être mise en pratique, mise en application. Donc, je ne fais que dire une lecture à distance. Le député qu'il a fait, c'est pourquoi il a fait, c'est tellement qu'il a compris le danger qu'il y avait si jamais le président ne figurait pas dans... ne prenait pas part au sein de ce contexte de la magistrature.
Merci Francis Ouabout. Je rappelle que vous êtes de Radio Liberté, qui émet à Brazzaville, et vous intervenez au téléphone. Passons enfin à notre dernier sujet. 11 pays de la région des Grands Lacs sont réunis depuis mercredi à Nairobi, au Kenya. Il s'agit pour eux d'arrêter des structures pour faire fonctionner effectivement ce regroupement. Pour le conseiller en communication du ministre congolais des Affaires étrangères, l'un des intérêts de cette rencontre consiste pour la RDC à parler avec le Rwanda au sujet des voies et moyens pour le retour de la paix dans la partie est du pays. En effet, ce vendredi, les délégués congolais et rwandais auront des discussions sous l'égide de M. Haile Menkerios, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Fidèle Moussa, vous êtes du phare. Que peut nous apporter une réunion de plus sur la région des Grands Lacs?
Nous allons des réunions en réunion, de rencontre en rencontre. La solution est là.
Laquelle?
Il y a des étrangers armés qui sèment la terreur, qui sèment la mort, qui violent des filles, des femmes et des vieilles femmes, qui tuent, qui détruisent l'écosystème à l'est.
Et dans les provinces,
j'ai continué mon cher ami, dans les provinces du nord au sud Kivu, ces gens doivent rentrer chez eux. Où? S'ils ont peur de rentrer chez eux au Rwanda, j'ai pas les intérêts, moi, parce qu'ils ont peur de la tête des Kagame, eh bien, qu'ils acceptent de quitter les deux provinces, qu'ils viennent du côté de l'Équateur, ou des provinces du Kasaï, au centre, en attendant que Kagame s'en aille. Il mourra ou il quittera le pouvoir. C'est ça leur peur. S'ils ont peur de regarder Kagame dans les yeux, parce qu'ils ont des pôles valeurs. Qu'ils quittent le Kivu. Que le Kivu reprend le travail. Les Kivusiens ne travaillent plus, ne vivent plus.
Est-ce qu'ils vont pas provoquer des problèmes dans les autres provinces?
Ah non, ils étaient là.
J'ai rappelé. Mais ils sont armés.
Écoutez, quand on va les déplacer, on va les désarmer. Et puis, on va leur proposer ceci, monsieur. Vous n'aurez pas de rentrer ou de revoir Kagame des yeux. Eh bien, on leur propose la santé congolaise. Alors, ils vont se mettre comme congolais. On va les utiliser comme chauffeurs, comme taxis. Ou pourquoi pas les mettre dans l'armée? Ils peuvent faire partie des Farc. S'ils veulent le métier des armes, on leur demande, vous devenez congolais, ils sont combien?
Mais s'ils sont intégrés dans l'armée congolaise, justement, ça risque de provoquer encore des tensions.
Non,
l'armée du Rwanda. Le Rwanda a souvent accusé certains pays de collaborer avec les Farc.
C'est question de discipline. Ça, c'est vrai. Il s'est bien dit que le régime actuel a soutenu les armes. C'est de bonnes guerres. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est de bonne guerre, c'est pas tout simplement. Le problème est ici qu'on puisse, c'est ça le problème. Alors, si on doit les dérégler, le problème est là. Régler le problème du terrain, et on a pacifié le Congo. C'est tout.
Merci beaucoup, Simon Kabamba.
Oui, là dessus, je crois qu'il y a un sérieux problème. Le conflit l'a évoqué, il faut arriver à mettre fin à la présence de ses intérêts à moi, CF de l'air.
Comment?
Mais c'est peut-être la procédure qui va faire que je mette un autre son de cloche par rapport au conflit tout à l'heure. lorsqu'il dit qu'il faut les déplacer, les amener par exemple à l'intérieur de la République ou les intégrer dans les FARDC, je soutiens que cela peut faire un problème. Dans la mesure où, jusqu'à ce jour, Kigali continue à considérer ces gens comme des génocidaires et qui doivent effectivement répondre devant la justice. Donc, il va considérer que nous, on a blanchi ces gens, et en ce moment-là, la guerre ne fera que continuer parce qu'il va susciter 5, 10, 20 autres Nkunda et qui vont continuer à nous faire ce qu'ils nous font. Moi, je me dis, si le Rwanda accepte d'ouvrir son espace de dialogue avec les FDLR, comme nous l'avons fait ici lors de la conférence nationale souveraine, on s'est parlé face à face. Que ces gens rentrent et qu'ils trouvent la sécurité qui puisse les aider, n'est-ce pas, à réintégrer la vie normale. En ce moment-là, les problèmes à l'Est ne vont plus continuer à se poser avec la même acuité
qu'au Sud. Donc vous voulez dire que le problème, le blocage, se trouve au niveau du gouvernement rwandais, qui ne voudrait pas ouvrir en quelque sorte son espace politique aux Interahamwe.
Bien sûr, le problème, s'il a persisté depuis une dizaine d'années, c'est parce que plus de 10 000 hommes armés qui font partie de FDLR sont bloqués à l'Est et ne savent pas rentrer dans leur pays.
Mathieu Nkoukoudi, est-ce que vous pensez que le problème se trouve au niveau du gouvernement rwandais pour débloquer cette situation à l'est du pays, c'est-à-dire qu'il devrait ouvrir son espace politique aux miliciens auto-rwandais qui sont ici en RDC?
Tout à fait, je suis d'accord avec le conseil qui venait de me précéder. Dans la mesure où on tirera les leçons de notre propre pays, de façon qu'il appartient également au Rwanda, de s'organiser, de réunir toutes ces filles et fils autour d'une même table et discuter sincèrement sur l'avenir du Rwanda.
Mais excusez-moi, le gouvernement rwandais n'en veut pas. Il ne veut pas des conditions au retour de Hutus rwandais.
Oui, mais c'est tout à fait logique. C'est là où se trouve logique, le nœud du problème. Parce qu'en fait, le Rwanda n'appartient pas au président Kagame, il n'appartient nullement à la junte au pouvoir. Mais le Rwanda appartient à tous les Rwandais, donc ils ont le droit de rentrer chez eux et éventuellement jouir de tous les droits que doivent jouir tous les Rwandais. Donc ils sont Rwandais à part entière. Ils ont le droit de participer à la vie publique et même politique.
Voilà, Francis Wabout, peut-être que vous avez un point de vue sur différent.
Oui, j'ai un point de vue. Moi, ce que je veux pas, c'est de penser qu'une solution aux questions de paix, aux questions de sécurité, peut venir comme ça, parce que, comme l'a dit le premier confrère, bon, parce qu'on ne veut pas de certaines communautés dans le pays, il faut les chercher. Non, je pense que faire comme ça, c'est plutôt remettre encore le couteau dans la plaie, c'est bloquer le pays, parce qu'une chose, en fait, est d'avoir gagné la paix, on a eu une véritable chose, une véritable bataille, et de pouvoir sauvegarder, préserver cette paix. Je vous prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous savez que dans le conflit que la Côte d'Ivoire a connu, il y a eu l'indexation des communautés de Burkina Faso, qu'on accuse d'avoir joué le rôle auprès des rébellions, qu'on accuse d'avoir, de vouloir taper la paix au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais la dernière solution a été laquelle? Après avoir parlementé, après avoir été à gauche et à droite, à travers les continents et le monde, mais le président Gbagbo, il n'y a pas longtemps, a pris une mesure solennelle pour que les ressortissants du Burkina Faso puissent bénéficier d'un certain nombre de conditions, mais en essayant d'étudier ces cas-là avec rigueur. Mais ceci n'a été possible qu'après avoir dialogué, bien sûr, avec les autorités, avec les pouvoirs du Burkina Faso. Donc moi, je dis, je salue ce type de réunion, je salue ce type de retrouvailles, mais si elles permettent quand même de regarder ensemble au niveau des gouvernements, quelles sont les solutions possibles pour permettre à cette communauté de vivre en paix, que ce soit en RDC, que ce soit au Rwanda. Parce que la RDC seule ne peut pas décider de leur retour. Les faire repartir comme ça, là-bas, si les conditions ne sont pas réunies, ces communautés, une fois au Rwanda, vont être pourchassées, vont être livrées à la justice, comme je l'ai entendu tout à l'heure, comme on l'entend d'ailleurs partout.
Francis, à l'époque de la guerre de 1997, on a appris que certains réfugiés rwandais avaient aussi traversé, étaient allés à Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Oui, non, justement, ils avaient traversé parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondiale version avec tous les accords, toutes les conventions que nos États signent avec l'ONU. Donc, on ne peut pas les chasser. Nous les avons reçus, le gouvernement congolais les a reçus, Ils ont été placés dans des sites appropriés, mais ceci, bien sûr, en accord avec le HPS, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
la Sécurité. Ils ont été désarmés. Est-ce qu'ils ont été désarmés?
Oui, naturellement, ils ont été désarmés. Oui, naturellement, ils ont été désarmés.
Merci.
Ils ont été désarmés parce que... Oui, oui justement.
Merci beaucoup. Mathieu Mpoukoudi, on me signale que vous avez encore quelques minutes. Disons, les représentants rwandais et congolais se rencontrent en principe aujourd'hui pour discuter de la restauration de la paix à l'est du pays. Mais comment vont-ils concilier leur position dans la mesure où, concernant le problème Kunda, les autorités rwandaises optent pour la négociation, tandis que, jusqu'il y a peu, le gouvernement congolais optait pour la force?
Merci beaucoup. Moi, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord que ce genre de rencontres se multiplient, mais tout en respectant la souveraineté des uns et des autres. J'ai toujours dit, et je le répète, l'affaire Nkunda, pour moi, c'est une affaire qui doit être classée, étant donné que nous sommes un État indépendant, souverain. Nous avons organisé des élections, et les autorités qui sont sur place, ils ont un mandat à représenter auprès du peuple. Donc ils attendent, mais Nkunda doit se faire désarmer, il doit aller au processus DDR, c'est clair. Moi je ne vois aucune raison que Portugal ne puisse s'obstiner, puisse refuser et nous imposer le dialogue avec Nkunda.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, quelques secondes, votre réaction.
Écoutez, il ne faut pas décharger les choses. Le problème.
Vous n'avez que quelques secondes.
Je ne parle pas de la parce que j'ai 8 minutes. Le Rwanda, l'espace politique du Rwandais est ouvert, qu'on ne vous trompe pas. D'abord, le Rwanda, c'est le pays où la sécurité existe. Du 24 juin, il n'y a pas de tueries, d'arrestation ou de quoi, non. Ça, c'est pour le dire. Le quoi, je veux dire. Pour, si vous en voulez, allez y voir. Chez nous, il y a encore la sécurité. Les Hyperamouais, l'espace est là. Moi, j'étais dans un cas de la réformation des Hyperamouais au Rwanda. Quand ils rentrent, ils sont réformés, ils sont versés à la vie civile. Mais il y a certains qui ont peur de rentrer, parce qu'ils ont des comptes à rendre. Alors, puisque ceux-là ne sont pas encore sous la liste du DPIR, et puis moi, par exemple, le Rwanda, ils peuvent rester au Congo. Les responsables qui sont recherchés, le gouvernement congolais doit les livrer. Ça, c'est un. Deuxième élément, on veut parler de problème de l'Est de Kunda. Le problème, il est résolu. C'est la solution politique, en fait. C'est la tout.
Merci beaucoup, Simon Kabamba.
Oui, voilà. Quelques secondes, j'encourage ce type de rencontres. Je me dis, si le Rwanda s'implique de plein cœur, et à trouver avec la RDC la vraie solution, nous allons sortir de cette ornière.
Merci à tous nos quatre confrères qui ont accepté de participer à cette tribune de la presse. Nadine Poul a été à sa réalisation et Guy Mandiango à la mise en onde. Bon week-end et à la semaine prochaine.